Fin novembre, je reçois le SMS suivant. Je cite « Salut Eric, je serai à Reims courant janvier. Tu m'avais proposé de participer à ton podcast. Si l'invitation tient toujours, ça pourrait être l'occasion. » Mais carrément, me suis dit-je. Je pourrais te parler de l'album que j'ai probablement le plus écouté de ma vie. Alléchant, pensais-je. Et du groupe que j'ai le plus vu en concert, 11 fois à ce jour et 3 dates prévues en janvier-février. J'en bavais déjà d'avance. Il s'agit de Maboul, The Story of the Three Sons of Seven, par le groupe israélien Orphan Land. Fin de citation. Vous imaginez bien qu'après un tel teaser, casque affûté et oreille en alerte, je m'envoyais Fissa une première écoute de l'œuvre. J'ai immédiatement été séduit par ce concept album original, très bien composé et magnifiquement réalisé. C'est, entre autres, pour ce genre de découverte que des potes et des albums existent, et je remercie mon pote du jour pour son intervention. Merci et bonjour Pierre-Henri.
Salut Eric.
Alors quand j'ai lu le titre de cet album, je me suis toujours dit, oula, là, il y a de la musique progressive là-dessous, et je ne me suis pas trompé, il y a du prog.
Effectivement.
Voilà. Mais pas que, et on va pouvoir détailler tout ça. Alors avant de parler de l'album, j'aimerais qu'on parle un petit peu du groupe. Qu'est-ce que tu voudrais nous en dire pour le présenter aux gens qui ne le connaîtraient pas?
Alors, tâche compliquée, je vais commencer. Donc il s'agit d'un groupe de métal progressif israélien, composé de 5 membres, un chanteur, Kobe Fari, deux guitaristes, un bassiste et un batteur, pardon.
Très classique.
Voilà,
très classique. Dans la composition, ouais.
Tout à fait. Et donc, qui joue du métal progressif, mais très influencé par leur pays d'origine, donc à savoir Israël, et le mélange des cultures qui peut avoir lieu dans cette région du monde.
Alors, j'ai vu qu'ils existent depuis 1991, et à la base, ils jouaient un métal plus sombre, qu'on appelle plutôt le doom metal. Donc c'est, on va dire, les héritiers de Black Sabbath, le groupe des années 70, avec un métal plutôt lent, on va dire, enfin pas très rapide, et puis surtout quelque chose d'assez assez dark, quoi. C'est,
ouais, effectivement.
Assez lugubre, c'est vrai que on va dire.
Dans leur début, alors toi tu parles de doom, et il y avait aussi beaucoup de death metal,
oui, aussi,
vraiment...
Ouais.
Là, pour une partie plus extrême, le côté lent du doom metal...
Tu le retrouves pas forcément?
On le retrouve pas forcément.
D'accord, ouais. Ok. Bon, c'est des choses que j'ai lues après, comme ça. Après, les genres, surtout dans le milieu du metal, c'est très foisonnant.
Oui, c'est pas toujours facile à définir.
Alors, je plaide peu pour la fausse lecture de ma part. Et c'est vrai que, comme tu le dis, après, ils ont, surtout à partir, donc j'imagine, des années 2000, ça va beaucoup plus vers la musique progressive, quelque chose de plus mélodique peut-être.
Oui, c'est ça. Non, leur première partie de carrière, avant cet album, c'est pas toujours Enfin, c'est des albums qui sont peut-être moins accessibles, effectivement. Il y a un côté plus extrême. Et à partir de cet album, Maboul, dont on va parler plus longuement après, je pense, on trouve ce côté, c'est ça, progressif. Ouais.
Alors, juste pour préciser, Maboul, c'est M-A-B-O-O-L, et en hébreu, ça veut dire le déluge. Donc, on va y revenir, ça sera l'histoire qui est racontée sur cet album. À quelle occasion tu fais la découverte de ce groupe ? Tu te souviens quand est-ce que c'était ?
Alors, je pense en avoir entendu parler, lu sur ce groupe dans un magazine, un truc qui était dispo gratuitement à la FNAC. Voilà, ça devait être dans les années vers 2007-2008, peut-être même un peu après. Ça devait être à l'occasion de la sortie de leur album suivant. Je me souviens, j'avais écouté le début de l'album au casque dans les magasins Fnac. Là,
à cette époque-là, on pouvait faire ça.
J'avais écouté le début et j'avais beaucoup accroché au premier titre, donc de l'album suivant, que je m'étais empressé d'acheter. Et je l'avais écouté en entier par la suite. Et j'avais pas vraiment réussi à rentrer dedans, pour être tout à fait honnête. Et quelques années après, j'avais vu le groupe lors d'un petit festival à Nancy, en concert. J'y allais pas spécifiquement pour eux, voilà, parce qu'encore une fois, j'avais pas vraiment accroché plus que ça. Et là, je m'étais pris une belle claque en concert.
Ah oui, ouais.
Et ça m'a donné envie de creuser un peu plus. Et c'est à ce moment-là que j'ai écouté l'album précédent, Ma Boule, que pour le coup, j'avais plus facilement aimé. Et ça m'a permis de me replonger dans la discographie et, de, voilà, et d'apprécier le reste.
Donc, on l'a dit, Orphanland est dans la mouvance du métal progressif et du métal oriental. Alors, la notion de métal oriental, j'avais jamais trop entendu, mais c'est vrai qu'il y a des groupes de rock dans tout le Moyen-Orient. Enfin, il y en a partout, de toute façon. Alors, ce qu'on entend par métal oriental, c'est qu'ils vont utiliser des gammes et des modes particuliers. On va y revenir tout à l'heure avec des illustrations. Ils utilisent aussi beaucoup d'instruments du Moyen-Orient, des ouds, des bouzoukis, des choses comme ça. Ils utilisent aussi d'autres éléments, notamment sur cet album, du chant, de l'orchestration classique. Ils l'ont fait avant et après, ou c'est pas que sur cet album, j'imagine ?
Alors, avant, je connais moins bien la discographie. Pour l'utilisation des gammes et des modes,
ça
c'est sûr. Pour l'utilisation des instruments, je ne saurais pas dire. Par contre, après, oui, ils ont continué à en user et abuser peut-être.
D'accord. Okay. Ah oui, d'accord. Okay. Non, intéressant.
Non, ça fait, effectivement, ça fait partie de leur signature, leur signature, au moins sur les albums. Et, voilà.
Et en live aussi.
Et en live, ils avaient un guitariste qui a changé depuis, mais qui utilisait une guitare à deux manches.
Ok.
Et donc, il y avait un des manches qui était un bouzouki, en fait.
Ah oui,
et
d'accord.
Il l'avait fait faire sur mesure. Super. Il appelait ça la bouzoukitara, bouzouguitare, on pourrait traduire ça comme ça.
Ok.
Donc, voilà, selon quelle manche il utilisait et quelle pédale, il pouvait l'utiliser en tant que guitare acoustique, guitare électrique ou bouzouki.
Énorme, super. Ouais. Est-ce que la notion de métal oriental, est-ce que c'est un genre que tu connais un peu par ailleurs? Tu connais d'autres groupes pays?
J'en connais assez peu. Y en a quelques-uns qui existent. Il y a un groupe tunisien qui s'appelle Miras qui est assez connu dans le milieu. Orphanland a tourné aussi, ça a permis de découvrir avec un groupe palestinien qui s'appelle Ralas. Voilà, c'est quelque chose dont ils sont assez, assez fiers d'avoir réussi à tourner un groupe israélien et un groupe palestinien ensemble.
On reviendra, c'est un groupe qui est très militant, tout ce qui est rapprochement des cultures et la paix, tout ça.
Après, c'est assez rare, finalement, de ce que je connais, en tout cas, d'avoir des groupes qui... de ces pays-là qui intègrent la musique on pourrait dire traditionnelle ou folklorique de ces pays-là au sein de leur musique. Je pense aussi à un groupe américain qui s'appelle Nile et qui pour le coup se revendique faire du métal inspiré par l'Égypte.
Ah d'accord. Voilà. Ok, l'Égypte en particulier.
L'Égypte en particulier.
Ok, très intéressant. Bon, allez, trêve de blabla, on va s'envoyer un premier extrait. Alors, comme toujours, quand il s'agit de musique progressive, on avait déjà rencontré un petit peu ce problème quand j'avais fait l'épisode avec mon pote Thibaut sur Dream Theater. On a des morceaux qui sont longs, ils font, les plus courts font 5-6 minutes et les plus longs, on peut approcher les 10 minutes. C'est assez compliqué de donner des exemples, surtout que je suis limité en termes de temps pour des histoires de droit. Donc on va faire des petits medley comme ça pour chaque morceau qui sont un petit peu longs. Et le premier d'entre eux s'appelle Birth of the Three.
Born.
Earth of the Three. Alors c'est un titre très important pour l'album car il pose toutes les bases de style, des différents styles, l'histoire que raconte l'album, puisque c'est un concept album, hein, on va y revenir, les différents types de chants utilisés par le chanteur, enfin voilà, on va revenir vers tout ça. Alors déjà, j'aimerais qu'on parle de la signification de l'album. Donc Maboul, M-A-B-O-O-L, ça veut dire déluge en hébreu. Et donc le titre complet c'est The Story of the Three Sons of Seven. Alors qui sont ces trois fils? Qui est Seven?
Alors effectivement, on a une histoire qui est un peu compliquée. Si j'ai bien compris les interprétations que j'ai pu voir de l'album, Seven représente un peu un dieu, oui c'est ça, hein, c'est le dieu tout puissant. Qui a trois fils, qu'il envoie sur Terre. Et alors, ces trois fils sont en fait représentent les trois religions qu'on appelle les religions du livre, le catholicisme, le judaïsme et l'islam. Mmh. Ces trois fils sont représentés chacun, voilà, tout ça est bien expliqué dans l'album par un animal et un symbole. Alors les symboles, c'est, voilà, ça permet de bien se repérer dans l'album, hein. Il y a la croix, le croissant et l'étoile, donc ouais. il y a aucun doute sur qui est qui. Ces trois dieux sont envoyés sur Terre avec comme consigne, comme règle à respecter, de jamais se retrouver au risque d'être finalement trop puissant. En fait, on va se rendre compte que s'ils se retrouvent, s'ils coopèrent, il y a un risque qu'ils soient trop puissants. Donc, ils sont un peu voués à être en conflit uns avec les autres.
Oui, parce que j'ai vu dans les paroles du début, là, ils disent ils ont chacun un espèce de super pouvoir. Le judaïsme, représenté par l'étoile de David, à la magie. Le deuxième, l'islam, le croissant de lune, il a la force. Et la chrétienté, représentée par la croix, a la sagesse.
Voilà. Oui, c'est ça.
Et donc, si on les réunit trop, ça ferait un dieu trop puissant.
C'est ça.
C'est un peu ça. D'accord, ok.
Et les trois fils envoyés sur Terre vont désobéir dans cette histoire. Et alors, malheureusement, peut-être, pas dans la vraie vie.
Oui, oui.
Mais dans cette histoire, vont se réunir, ce qui va déclencher là une colère divine et donc le déluge annoncé par
l'album. D'accord. Alors, cette histoire préexiste à l'album ou c'est eux qui l'ont inventée? Parce que je trouve ça bizarre de... Enfin, je pense pas que ce soit dans la Bible. C'est-à-dire que la Bible qui a été écrite, qui date de bien avant le christianisme et l'islam, ne peut pas parler du christianisme et de l'islam. Donc, j'imagine que c'est une espèce d'histoire qu'ils ont inventée.
Oui, je crois que c'est une histoire qu'ils ont inventée. Ouais.
Ouais, je suis pas arrivé à trouver exactement. Ouais. Alors, je trouve ça du coup assez bizarre, ce groupe qui a une envie de fédérer les religions... invente une histoire où, justement, il faut éviter de réunir les trois. Mais peut-être que dans le dénouement, en fait, on a une autre morale.
Oui, dans le dénouement, ils arrivent à survivre à ce châtiment divin en faisant un très traditionnel arche pour s'en sortir.
D'accord.
Il y en a une chanson qui s'appelle « Building the Ark », construire l'arche, et voilà.
Donc, c'est pas tellement l'histoire de Noé?
Non,
c'est pas l'arche de Noé, en fait. Au début, j'étais un petit peu trompé
par
ça.
Non, c'est pas précisément l'arche de Noé.
Voilà, c'est ça. Parce que Noé n'est jamais mentionné. Voilà, donc c'est pour ça, en fait. Alors, de toute façon, l'histoire du déluge existe dans à peu près toutes les anciennes civilisations, cette idée de pluie divine. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elle n'est pas... on ne la trouve pas que dans la Bible. Donc, pourquoi pas s'en emparer de ce thème et puis faire une espèce de méta-mythe, si je peux utiliser ce mot-là. Ouais. Ok, on va dire un petit mot du chanteur. On l'entend dans cet extrait, il utilise deux types de chants. Le chant clair, qu'on connaît très bien, et un chant qui est propre au métal, qu'on appelle le grunt ou le growl, je ne sais jamais.
Oui, alors je crois que c'est deux techniques qui sont différentes, qu'on rassemble souvent en français sous le terme de chant saturé. Voilà, donc c'est ces voix gutturales. Je crois qu'il y en a une qui est plus dans les graves, entre le growl et le grunt. Il y en a une qui est dans les tons graves et l'autre c'est dans les tons aigus.
D'accord, voilà. Je ne connaissais pas la différence. Ok, super.
Ouais. Mais voilà, et effectivement, ce chanteur, Kobi Fari, arrive à évoluer dans les deux styles. On l'entend sur l'extrait que tu as proposé. Et même en concert, c'est lui qui assure les deux types de chants. qui maîtrise. Voilà, on sent qu'il a une maîtrise de sa voix.
Le batteur aussi, j'ai vu, il fait des interventions vocales.
Oui, il peut faire des
pareil, chœurs, en voix saturée. Ouais.
Oui.
Ouais. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est quand ce chanteur chante en voix claire, je trouve pas qu'il a une voix hyper puissante pour un chanteur de métal. Je la trouve relativement, entre guillemets, douce, presque pop. Alors, je voulais juste passer un petit extrait du deuxième morceau qui s'appelle Oceanland. On va l'entendre sur le refrain. Moi, je trouve que c'est pas le type de voix qu'on peut attendre d'un chanteur de métal. Mais je trouve ça très bien, pour le coup, très joli. J'envoie l'extrait. On le voit dans cet extrait, ce chant clair qui est, je trouve, plus pop, qui est très intéressant. On l'entend en alternance aussi avec le batteur qui fait des voix saturées derrière pendant ce refrain. Alors, tous les autres musiciens sont très très bons techniquement. Dans la musique progressive en général, on a souvent affaire à des cadors, hein, de toute façon, ça s'entend sur l'album, on le voit sur les vidéos. Pour le live, tu confirmes ?
Oui, c'est toujours très bien effectué.
Ah ouais. Tu les as vus, alors tu m'as dit que tu les as vus 11 fois en concert.
Oui.
Donc c'est quasiment du fanatisme.
Je pourrais avoir des anecdotes qui te surprendraient.
Ah ouais, d'accord, ok.
Je les ai vus deux fois le même jour.
Tu les as vus deux fois le même jour, ok. Ouais, donc on a affaire à un fan. Est-ce que tu les as vus dans différentes configurations, c'est-à-dire avec éventuellement des musiciens additionnels, un orchestre symphonique, parce que j'ai vu sur YouTube, ils interviennent des fois, avec aussi plusieurs chanteuses
Alors, pas de choses aussi marquées. Ils ont juste fait une tournée acoustique où ils étaient accompagnés pour faire les chœurs d'une petite chorale allemande qui s'appelle Stimmgewalt. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et il devait y avoir, je ne sais plus, 6-8 choristes, quelque chose comme ça. On n'est pas... voilà. Et c'est vrai qu'ils font parfois des concerts un peu événementiels avec orchestre ou des chorales plus importantes. Je crois que c'est toujours des choses qu'ils font en Israël pour des événements un peu particuliers. Je ne crois pas qu'ils soient partis en tournée... avec ces configurations.
Avec un gros orchestre, ouais.
Donc non, moi j'ai toujours vu les cinq musiciens. Je ne crois pas avoir vu de chanteuse avec eux non plus.
D'accord.
Je peux me tromper, mais je ne crois pas.
D'accord. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse, je vais te piquer le micro pour 2-3 minutes là, pour parler... Qu'est-ce qu'on entend par musique orientale ? Dans le précédent épisode de Dépothèses et des albums, avec mon pote Mathias, on avait parlé de Malicorne et on avait abordé la notion de musique modale. Par manque de préparation, mea culpa, on s'était un petit peu fourvoyé dans nos explications. Donc là, j'aimerais juste essayer d'illustrer un petit peu mieux ce qu'on entend par là. Alors, on l'a vu, il y a différentes façons d'aborder la musique dite modale. Donc là, je vais en aborder une des façons d'expliquer la chose. Alors... En Occident, on est habitué à entendre, 99% du temps, des musiques qui utilisent toujours les mêmes notes. Alors, on connaît très bien, si on va se placer, par exemple, dans une gamme de Do majeur, on connaît très bien l'enchaînement des notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, qui sonne comme ça. Voilà, ça c'est quelque chose de très connu. Ça c'est une gamme qu'on appelle majeure. On a aussi... une autre gamme qu'on va appeler mineure, voilà, que je ne vais pas forcément aborder dans l'exemple là. En comparaison, les modes orientaux, alors je fais une comparaison, je ne veux pas prendre la musique occidentale comme une référence absolue, c'est juste que c'est celle qu'on connaît le mieux, donc c'est celle qui nous permettra de mieux comparer, mais ça ne veut pas dire que c'est la référence par rapport aux autres, c'est juste une comparaison. Les modes orientaux, par rapport à cette gamme occidentale, on va jouer les mêmes notes, Et certaines, on va les, soit les augmenter un petit peu, soit les abaisser un petit peu. On utilise ce qu'on appelle des dièses et des bémols, ça c'est des termes assez connus. Donc par exemple, un des modes qui est utilisé, il y en a plusieurs, par rapport à cette gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do qu'on connaît, on va prendre trois notes, le ré, le la et le si, et on va les abaisser. Donc le ré va devenir un ré bémol, le la un la bémol, et le si un si bémol. Et donc au lieu d'avoir... Et ben on aura... Et c'est vrai que quand on joue ça comme ça, on voit que c'est déjà coloré culturellement vers des sonorités plus orientales. Et donc les modes, en fait, c'est juste un enchaînement d'intervalles, soit de tons, soit de demi-tons, et en fonction de là où on place les tons et les demi-tons, on va colorer culturellement la musique. Donc si on utilise d'autres types d'enchaînements d'intervalles, on aura une musique plus colorée, de manière, je sais pas, japonaise, des fois plus celte, ou alors hispanique, etc. Et alors ce qui est d'autant plus intéressant dans la musique orientale, c'est que nous, on va utiliser au total 12 notes, et parce qu'on les divise en demi-tons, et dans la musique orientale, ils ont une division plus fine, ils utilisent des quarts de tons. C'est des choses, à nos oreilles occidentales, qui nous paraissent un peu fausses, parce qu'on n'a pas l'habitude. Quand on se met à en écouter beaucoup, on prend l'habitude et on commence à entendre ça, c'est plus joli à nos oreilles. Et notamment, un musicien qu'on connaît bien en France, qui s'appelle Ibrahim Malouf, le trompettiste, il utilise une partie du temps ses quarts de tons. Il a d'ailleurs une trompette qui est équipée d'un quatrième piston qui lui permet de faire ses notes qui ne sont pas reproduisibles par les instruments traditionnels occidentaux. Voilà, fin de la parenthèse, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde. Et on va, d'ailleurs, je voulais maintenant passer le deuxième extrait, la chanson qui s'appelle The Kiss of Babylon. Et dans le début de l'extrait que je vais passer, on utilise justement le mode que je viens de vous présenter. Alors, The Kiss of Babylon, on voit que c'est un morceau qui fait beaucoup intervenir une chanteuse qui s'appelle Shlomit Levy. Tu la connais un petit peu, non, cette chanteuse? Pas plus que ça?
Non.
D'accord,
pas,
ok.
Pas plus que ça. Je connais effectivement son nom. Elle a intervenu sur plusieurs de leurs albums. Je crois qu'elle a dû tourner un peu avec eux aussi.
Ouais. C'est une Israélienne qui est d'origine yéménite et qui est spécialiste du chant yéménite. Moi, je trouve que on fait souvent intervenir dans les albums des chanteuses pour le côté très très cliché, le côté doux, serein, tout ça. Et moi, je trouve au contraire, elle apporte une force et une dramaturgie assez incroyable, notamment sur ce morceau-là. Donc, c'est pas une chanteuse que tu as vue en concert, tu disais
Non, je ne crois pas.
Ah, ok, d'accord. Alors, c'est un album dont l'écriture et l'enregistrement ont duré 6 ans. Est-ce que tu sais pourquoi ça a mis si longtemps ?
Non, effectivement, l'album précédent était bien plus ancien.
Ouais.
Tu dis que l'écriture... Effectivement, ces 6 ans à l'écrire et à le...
Ouais, c'est ça. Et à l'enregistrer. Je me demande si c'est pas lié à des climats de violence qu'il y avait eu dans la région à ce moment-là. Je n'ai pas en tête l'histoire un peu triste de cette région. Voilà, bon. Ok. Tu sais s'il a été fait en Israël ou ailleurs, d'ailleurs ?
Je crois qu'il a été majoritairement enregistré en Israël.
Ouais.
Et je crois que c'est sur cet album, tiens, une petite anecdote que j'ai lue récemment, où il y a un passage qui a été enregistré secrètement dans le Taj Mahal.
Ah oui, j'ai lu ça aussi. Ouais. Tu sais quel extrait, non ?
Non ? Non, je me souviens plus.
Oui, c'est vrai que j'ai lu ça, je ne l'ai pas mentionné, mais ouais. Ok, bah, c'est bien, ils se sont fait plaisir. Alors, on a dit que c'est un concept album, hein, on a brièvement raconté l'histoire. Donc, un concept album, pour rappel, c'est un album qui est organisé autour d'un seul thème ou qui raconte une histoire. Alors, toi qui écoutes énormément de musique, est-ce que la notion de concept album, tu apprécies ça particulièrement ? Je pose la question parce que c'est mon cas, hein, j'adore cette idée de concept album, une espèce de tout.
Ouais, tout à fait. Oui, ouais. Moi aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a un peu cette différence que tu as mentionnée. Ça peut être soit beaucoup de chansons autour d'un même thème, ou alors développer une histoire vraiment continue où les chansons s'enchaînent. Et oui, moi, c'est plus ce côté histoire qui me plaît beaucoup, où on va avoir, un peu comme dans un film, plusieurs ambiances, plusieurs couleurs un peu dans l'album, parfois même au sein d'un même titre, effectivement, comme tu le disais, hein, les titres d'une dizaine de minutes qui vont commencer très doucement, une montée en puissance, une redescente, ou plusieurs d'ailleurs, parce que ce que je te décris là, ça peut être très bien dans la pop, mais, mais voilà, on peut avoir plusieurs ambiances, plusieurs...
Et tu as des titres phares que tu aimes particulièrement ? Enfin, des noms d'albums, de concept albums comme ça que...
Alors, dans le métal progressif, il y a le grand classique dont tu avais parlé, Thibaut, effectivement, de Dream Theater, qui fait partie, on va dire, des références en métal progressif. Après, il y a tout ce qui est rock progressif qui est aussi assez connu, les albums de Genesis, les vieux albums.
Qui sont souvent des concept albums ?
Oui,
Après, Gainsbourg en a fait beaucoup.
Je connais moins.
On parle souvent aussi. Bah, Dark Side of the Moon, on en parle souvent, mais je ne sais pas.
The Wall. The Wall, effectivement. L'archétype du concept album.
Moi, je trouve ça, c'est toujours très intéressant d'avoir une œuvre comme ça. En termes de composition, je trouve ça toujours très intéressant. On va passer au troisième extrait que tu m'as proposé, qui s'appelle Allo Dies. Je ne sais pas si on prononce comme ça.
Je ne sais pas non plus. J'ai toujours cru que c'était Allo Dies.
Allo Dies,
En fait, maintenant que tu le dis, peut-être que c'est du latin et pas de l'anglais.
Ah oui, ok.
C'est une bonne question.
Okay. On en voit.
Of the Lord, he's ever
Hello Dice, alors voilà, on est quasiment dans des conditions du direct là, pendant qu'on l'écoutait on a vérifié, donc la prononciation c'est bien Hello Dice. Waouh, quel titre, celui-là il est d'une richesse incroyable, on passe par un panel d'émotions très varié.
Effectivement, ouais, beaucoup ouais. D'ambiance, hein, c'est, je crois que c'est, voilà, ça doit être le titre où les trois fils de Seven se retrouvent et déclenchent la colère de Dieu là qu'on entend
parce que le sous-titre du titre c'est The Wrath of God, la colère de Dieu.
Voilà, effectivement, et on l'entend chanter ou hurler ouais. La colère de Dieu. Il y a ces effets de Larsen, de Parasite qu'on entend, un travail ouais, c'est ça, un travail sur le son qui est assez impressionnant quand on l'écoute au casque, on passe d'une oreille à l'autre, là on a l'impression de se faire engueuler par Dieu. Voilà, qu'on a déclenché sa colère divine
et... Ouais. Alors il y a quelque chose que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est un groupe qui est très connu dans le milieu du métal, parce que je pense, enfin à mon avis il n'est pas très connu en France, mais est-ce qu'il est reconnu notamment par des groupes avec plus de notoriété comme Dream Theater, Tool, est-ce que tu sais si ces gens-là en ont parlé
Alors oui, c'est un groupe qui est quand même plutôt connu.
D'accord, okay.
Alors il a quand même une histoire, tiens tu dis qu'il n'est pas très connu en France, il a une histoire avec la France parce que son premier label c'était un label français, leur album précédent, les deux albums précédents peut-être, ah, j'ai un doute, il faudrait vérifier, il y a quelques albums qui sont sortis sur le label français Holy Records,
ok,
voilà, donc ils ont quand même une histoire avec la France,
ok.
Quand ils viennent en Europe, ils font quand même toujours 4, 5, 6 dates en France, alors dans des salles de taille moyenne. Hein.
Ouais. Ils viennent au Hellfest aussi, j'imagine.
Ils sont déjà venus au Hellfest. Ouais. Et par rapport à la reconnaissance, tu parlais de reconnaissance de d'autres groupes, leur album suivant ma boule, là, a été mixé par un musicien très connu aussi dans le milieu. Il s'agit de Steven Wilson, qui est le chanteur-guitariste de Porcupine Tree. Voilà.
J'adore.
Et il y a un concert qui a été filmé également où Steven Wilson intervient et vient faire un titre avec eux. Donc voilà, ils ont quand même un lien assez fort avec cet artiste qui, dans le milieu du métal, est très, ouais. très connu et
ouais.
reconnu.
Oui, métal, musique progressive, enfin, voilà. il a une palette très très large, Steven Wilson.
Oui.
Ouais, très intéressant cet artiste. Alors on l'a dit tout à l'heure, ce sont des artistes qui ont un engagement politique fort, hein. Ils multiplient les messages de paix entre les communautés juives et arabes du Moyen-Orient notamment. Ça se voit dans leurs déclarations, ça se voit sur scène. Alors on le voit par exemple sur des vidéos, sur une vidéo que j'ai vue, le chanteur avait sur une épaule un drapeau israélien, sur l'autre un kéfier palestinien, etc. Leur dernier album, j'ai vu, sur la pochette, on voit les trois symboles du monothéisme rassemblés dans un seul et même logo, donc en utilisant la croix, l'étoile de David et le croissant.
Ah, c'est pas le dernier album, c'est l'avant-dernier
album, que n'ai-je dit. Il y a aussi une anecdote que j'ai trouvée assez effarante. Lors d'un concert, ils ont fait intervenir une danseuse du ventre libanaise qui s'appelle Johanna Fakri, qui a brandi le drapeau libanais et israélien, et depuis elle est menacée de mort dans son pays, elle évite d'y retourner, donc voilà, ils ont, mais ils continuent avec cet engagement. Donc toi qui les as vus sur scène, donc tu confirmes à chacune de leurs prestations, ils en profitent pour faire passer ces messages de paix.
Oui, tout à fait, c'est un thème qu'ils abordent beaucoup. Dans l'imagerie, effectivement, il a toujours, je crois qu'il a toujours un keffieh autour du cou ou sur son pied de micro. Après, le chanteur, là, Kobi Faris, il en rigole, hein, c'est un espèce de Jésus, il a les cheveux longs, il vient sur scène un peu en toge. Il a une sorte de chapelet autour de la taille, enfin c'est voilà, c'est, on a vraiment l'impression d'être à une cérémonie un peu
tu trouves qu'il en fait trop?
Non, c'est
parce qu'on peut, pourquoi pas, hein, c'est, on peut avoir un engagement comme ça, mais après tout c'est des artistes, quoi, ils sont pas là.
Tout à fait, non, après ils n'en parlent pas non plus énormément, ils en parlent un peu, voilà, ils ont plusieurs titres notamment effectivement sur l'album All Is One que tu mentionnais, dont la pochette représente les trois symboles des religions monothéistes là entrelacées. Ils ont plusieurs titres qui parlent de la guerre au Moyen-Orient, un titre qui s'appelle Brother, où ils parlent d'enfants israéliens et palestiniens qui ont grandi ensemble et qui se retrouvent un jour face à face lors d'un combat. Bon, voilà.
Après, on comprend que, vu là où ils vivent, ça marque leur vie de tous les jours. Et c'est une voix qui fait du bien.
Oui, tout
qui
à
fait.
Qui
fait du bien, parce qu'on entend beaucoup plus des voix guerrières en ce moment. Et à chaque fois qu'on peut donner la parole à ces gens-là, ça fait du bien.
Tout à fait. Ouais. Et c'est une autre chose d'assez surprenant, je trouve, en concert. Bon, alors, je pense que beaucoup de gens ont l'image du métal, souvent... plutôt anti-religieux, et là, en concert, plusieurs fois, je pense pas systématiquement, mais ils vont demander au public, est-ce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, juifs, musulmans dans la salle, tour à tour, et voilà, et les gens sont très fiers de lever la main, tour à tour, et voilà, effectivement, ils essayent de rassembler, plutôt rassembler les gens que diviser, quoi.
Ok, super. On va faire une petite parenthèse acoustique avec le titre qui s'appelle « Building the Ark ». Seul commentaire simple, c'est beau.
Oui, tout à fait.
Ouais. J'adore ce titre, j'adore. Alors, on l'avait vu avec l'épisode sur Dream Theater avec Thibaut. Dans ce genre d'album, il y a un équilibre entre les parties assez violentes et les parties acoustiques calmes qui est souvent bien dosé. Alors, sur cet album, je trouve que l'équilibre, il est juste incroyable. Je sais pas si tu es sensible à ça aussi.
Si, complètement. C'est vrai que... c'est un album qui est long et à voix, enfin c'est pas possible de faire un album aussi long, toujours, j'ai envie de dire, toujours à fond, toujours très, très violent. Là, l'alternance permet de garder le fil de l'album.
Et puis ça reflète l'ensemble des émotions, une palette d'émotions qu'on peut avoir. On n'est jamais que en colère, on peut être aussi triste, on peut être... Non mais c'est vrai qu'on a souvent l'image du métal, justement, de... de représenter un seul type d'émotion qui est quelque chose de violent, de brutal. Et en fait, bah, on le voit souvent, les groupes assez pointus comme ça, ils ont un panel, ils ont un vocabulaire qui est vraiment très, très étendu. J'aimerais qu'on dise un mot de la pochette. Est-ce que tu sais d'où elle vient? Non, j'ai cherché un petit peu et j'ai pas trouvé, c'est pour ça. Moi, je la trouve très jolie. Donc elle représente une espèce de vague, un petit peu, je sais pas quoi dire, une vague violente. C'est pas très clair. Ça ressemble à de la peinture. Moi, ça me fait penser à un peintre anglais qui s'appelle Turner, un peintre anglais de fin du 18e, début 19e, qui représentait toujours des paysages marins comme ça, tourmentés, un peu violents. Voilà, et j'aimerais bien savoir d'où vient cette pochette. Et ben, je désespère pas.
J'essaierai de te trouver l'information.
Ah, je veux bien, oui. On l'a un tout petit peu abordé. Est-ce que tu connais bien l'ensemble de la discographie du groupe? Alors, tu disais peut-être un peu moins le début.
Alors, je connais moins les albums précédents, effectivement, celui-ci, mais les albums suivants, je peux t'en parler un peu aussi.
Ouais, bien sûr, oui, carrément. Hein, qui sont toujours dans la veine progressive.
Oui,
ouais.
Alors l'album suivant s'appelle The Never Ending Way of Our Warrior. C'est un album également progressif qui développe un concept que j'ai oublié. Voilà, l'album n'est pas très facilement accessible, mais si celui-ci t'a plu, je pense que The Neverending Way of Our Warrior devrait te plaire également. Mais pour commencer, c'est pas forcément le plus facile. L'album suivant, All Is One, donc, dont la pochette représente ces caractéristiques-là, les trois symboles. Là, de mémoire, on a uniquement des titres courts, bien plus efficaces. On a moins ce côté progressif dans le sens une seule histoire. Par contre, là, on a beaucoup les thèmes de la paix qui reviennent. Si vous n'aimez pas forcément les titres longs, là, on est dans le côté efficace. Voilà. Et leur dernier album studio en date s'appelle Unsung Prophets and Dead Messiahs, donc les prophètes inconnus ou non chantés, unsung, et les messies décédés. Donc là, on retrouve encore les prophètes, les messies, on a toujours ces thématiques-là. Il me semble pas qu'il y ait d'histoire racontée au fil de l'album. D'accord. Par contre, on retrouve les titres longs, certains titres en tout cas plus longs et des histoires. Tous ces albums sont vraiment très très bons, très bien produits. En termes de son, ma boule peut parfois, je trouve, faire un peu daté peut-être ou
peut-être ouais
un petit peu, mais les suivants sont vraiment mixés.
D'accord, plus actuels en termes de son. Ça marche. Alors c'est vrai que moi j'ai beaucoup écouté celui-là pour préparer l'épisode et puis aussi par plaisir parce que c'est vraiment un album qui m'a beaucoup plu et j'ai commencé à découvrir le groupe en partant du début. C'est vrai que le début, j'ai pas forcément les premiers albums des années 90, j'ai eu un petit peu de mal avec l'esthétique. Tu dirais que ma boule, c'est l'album le plus facile pour rentrer dans la discographie du groupe?
Alors c'est peut-être pas le plus facile pour les gens qui sont pas habitués aux albums de métal progressif. C'est peut-être l'album qui est le plus connu, qui va avoir les meilleures les meilleures notes, qui est souvent le plus acclamé par la critique. Je dirais que All Is One est peut-être le plus accessible pour des gens qui connaîtraient pas du tout. Si le chant saturé vous rebute un peu, commencez par All Is One où il y en a peut-être moins, et pour ensuite aller découvrir le reste et la richesse du groupe.
Très bien, et ben j'ai mon programme pour les prochaines semaines, c'est parfait. On va passer au cinquième extrait que tu m'as proposé, qui s'appelle Nora El Nora, Entering the Ark. Nora El Nora, Nezar de Gemura, Shuri El Aimalki. דודי לפניו ושנחשפה לבטח מלכי, לבטח מלכי. נורא אל נורא, נורא אל נורא, נזר בגבורה. Yeah. Nora Elnora. Alors tu m'as mis dans ton message, c'est le tube avec un gros le. Pourquoi c'est un single, c'est ton morceau préféré?
Non, alors non. C'est pas forcément mon morceau préféré, effectivement. Non, c'est pas mon morceau préféré.
D'accord, ok,
j'en suis sûr. Mais je pense qu'il est sorti en single. Ouais. C'est le titre qui clôture tout leur concert. Je pense qu'on entend dans l'extrait que t'as passé le côté tube. Enfin, je trouve un refrain très efficace. Des paroles en hébreu, je crois.
Alors, c'est ouais, ça. J'ai lu le début, l'introduction, là, avant que les instruments électriques rentrent. C'est une prière juive qu'on récite pour Yom Kippour. Voilà. La musique, je ne sais pas, par contre, mais les paroles du début, c'est ça.
Et même si, on va dire que même pour des Français ou, qui ne la comprennent pas et qui ne connaissent pas la prière, voilà, les mots Nora El Nora, c'est facile à,
oui,
facile
oui,
à chanter, à retenir. Et oui, enfin, c'est le titre qui clôture leur concert et qui fonctionne très bien, qui est très accrocheur, quoi.
Ouais, ok. Alors. PH, tu es un grand mélomane, de ce moins, c'est du moins l'image que j'ai de toi, avec de nombreuses discussions de musique, voilà, c'est ta faute si tu as créé cette image.
Très bien.
Tu écoutes beaucoup de musique, tu vas voir beaucoup de concerts. Comment s'est construite ta culture musicale? Est-ce que tu as eu des gens qui t'ont fait écouter beaucoup de choses? Est-ce que tu en écoutes depuis tout petit?
Alors non, j'en écoute pas depuis tout petit. Mmh. À la maison, mes parents en écoutent assez peu.
Okay.
Mes parents sont alors plus... Enfin, mon père est musicien, musicien classique,
okay.
Pas de métier, violoniste, donc j'écoutais un peu de musique classique à la maison, mais à part ça, très peu. Et j'ai commencé à construire ma culture musicale à l'adolescence, en écoutant un peu la radio. Je faisais des compiles sur des cassettes de ce qui me passait par la tête, enfin de ce que j'entendais. J'ai des copains qui m'ont copié des cassettes à l'époque, alors les grands classiques, hein, enfin moi c'était les années Nirvana, mmh. C'est pas forcément exactement mes années, mais c'était les grands frères de mes copains qui écoutaient ça, et du coup ça s'est passé comme ça, mon introduction au rock, on va dire. Mmh. Et puis petit à petit j'ai commencé à acheter, j'ai rapidement acheté beaucoup de CD.
Ouais. Enfin, voilà, j'en ai acheté... Tu disais que ton dernier déménagement, ça va.
Oui, il y avait quelques cartons de CD, effectivement. Et j'ai été assez curieux. Tu vois, je te parlais de ce magazine qui était disponible gratuitement à la FNAC, que je prenais assidûment. Je lisais les critiques, j'essayais d'aller écouter un extrait. C'était une époque où j'étais étudiant. Pas rémunéré, hein. Donc j'écoutais des extraits à la FNAC, si ça me plaisait je pouvais acheter l'album et puis et l'écouter plus tard.
Mmh. Et maintenant
il y a une époque où j'ai eu également un désir de d'essayer de remonter un peu dans le côté un peu tentaculaire de la musique, alors aller faire l'historique des groupes, savoir un peu qu'est-ce qui a été inspiré par quoi. Et ensuite, repartir dans l'autre sens et me dire, bah voilà, je sais pas, tel groupe a été inspiré par Led Zeppelin, et est-ce qu'il y en a d'autres? Et puis, découvrir énormément de branches
remontant,
différentes comme
en
ça.
En remontant
quoi.
Les branches de l'arbre jusqu'à la racine. Ouais, très intéressant. Ouais, ouais. Ouais. Et t'as découvert, du coup, des choses...
J'ai découvert...
J'imagine beaucoup de choses comme ça.
Beaucoup de choses.
En faisant comme ça. Comment tu utilises quoi? Beaucoup la presse, Internet?
Oui, il y a une époque où il y avait beaucoup la presse
musicale, oui.
Ouais, mmh. C'est ça. Et bon, aujourd'hui en plus avec Spotify, tout ça, c'est bien plus facile d'écouter des albums sans prendre le risque de payer.
Oui. Tu achètes encore des CD?
J'en achète encore,
ouais,
un peu moins. J'ai plus de place.
Ouais. Ok. On va passer. Alors, je voulais passer un extrait d'un morceau que j'adore, qui s'appelle The Calm Before the Flood, le neuvième morceau, qui est juste un instrumental guitare avec un tout petit orchestre derrière. C'est magnifique. Mais l'heure tourne. Je vous conseille de l'écouter chez vous, de votre côté. Vous allez voir, c'est magnifique. On va passer au sixième extrait que tu m'as proposé, qui n'est pas un titre, mais deux titres, qui s'appelle Ma Boule, donc le Déluge et The Storm Still Rages. Donc là, c'est les on arrive quasiment à la fin de l'album, voilà, avec le déluge à proprement parler. Et donc c'est deux titres qui s'enchaînent en fait, deux titres longs qui s'enchaînent, et ça fait un grand morceau de 15 minutes. שחט כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמיים כל אשר בארץ סגבה ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה את הלורד And so the ark was swept upon the rising water arrive à la fin sur cet ensemble de deux morceaux qui n'en forment plus qu'un. C'est une espèce de morceau de synthèse, je trouve, de tout l'album. C'est ce que tu me pointais en tout cas sur...
Oui, c'est vrai, on retrouve des thèmes musicaux entendus avant, qui se répètent. Moi, je trouve qu'il a un côté un peu presque psychédélique. Il y a des passages qui se répètent beaucoup, quelques mesures qui se répètent beaucoup.
Une fin un peu hispanisante, enfin il y a des passages. Ouais, alors de toute façon, la musique espagnole, la musique orientale sont très liées, hein, il y a des choses qui ressemblent beaucoup. On arrive à la fin de l'histoire, tu sais comment ils terminent l'histoire ?
Donc il y a effectivement ce déluge, ils arrivent à en réchapper grâce à l'arche qu'ils ont construit auparavant. Mais je ne sais pas s'il y a une fin autre.
Ok. Alors souvent, les groupes qui ont des concept albums dans leur discographie les jouent intégralement sur scène. Roger Waters en a fait avec The Wall en a fait une tournée complète, notamment. Mais des fois, ils font une première partie de concert, ils jouent intégralement leur album, et puis ensuite, c'est quelque chose qui reprend l'aspect d'un concert classique. Est-ce que toi, tu l'as vu jouer intégralement ?
Alors, je l'ai vu jouer intégralement pour les... Ils ont fait la tournée des 10 ans de l'album.
Ah oui.
Donc je crois que l'album date de 2004.
2004, ouais, c'est ça.
C'est ça, donc, ouais. Donc en 2014.
Ouais.
L'album a été joué intégralement, je crois qu'il a été joué dans l'ordre. Mais par contre, au milieu, ils ont rajouté des titres plus récents et d'autres titres. Donc ils ont joué la première moitié de l'album.
Ah oui.
Leur sortie plus récente, on devait en être à l'album All Is One. Et puis la fin de l'album.
Et l'orchestration ou l'interprétation était assez fidèle à l'album ou ils ont varié.
Ouais. Non, c'est très fidèle à l'album. Ouais. C'est effectivement, c'est un groupe où il y a beaucoup d'orchestration. Et comme les musiciens de l'orchestre sont rarement sur scène, comme on en parlait au début, ils jouent avec beaucoup de bandes.
D'accord.
Laisse finalement assez peu de peut-être assez peu de place pour.
Ouais, j'ai vu notamment, enfin les quelques vidéos que j'ai vues, les solos de guitare notamment, ils les jouent à peu près tel quel quoi. C'est pas de l'improvisation quoi. C'est vraiment c'est une musique qui est vraiment très composée. L'album se termine sur le titre qui s'appelle Rainbow, qui veut dire l'arc-en-ciel. Alors c'est un titre qui termine magnifiquement l'album. Hein. C'est un nouvel instrumental. Guitare seule avec quelques sons marins, des chants d'oiseaux. Je trouve que c'est un peu un classique de finir un concept album par un instrumental. Je sais pas ce que.
Ah, j'ai pas forcément d'autres exemples en tête, okay.
Mais je trouve que ça termine très bien.
Mais oui, ça termine
très bien un album. Ouais. Ok. Et ben, ça sera le mot de la fin. BPH, un immense merci pour cette claque.
Même. Merci à toi pour l'invitation et je suis ravi que ça t'ait plu.
Ah bah je t'en prie, bah c'était, je pense qu'un des albums que j'ai préféré en 2023, et alors plus je l'écoute, plus je l'apprécie, et puis surtout ce qui fait pour moi la moelle des grands albums et des grandes œuvres artistiques en général, c'est que plus j'y retourne, plus je trouve des détails que j'avais pas trouvé avant, qui me l'éclairent autrement. Je trouve que ça, c'est vraiment un signe que c'est une belle œuvre. Bon retour en terre toulousaine.
Merci beaucoup.
À bientôt. Donc, tu vas aller voir prochainement
Alors, malheureusement, la tournée il devait venir en France en janvier-février, et la tournée, pour cause de conflit en Israël, est reportée au mois de décembre.
D'accord.
Donc, j'espère aller les voir au mois de décembre.
Ouais, et que le conflit va un petit peu se calmer aussi. Eh bien, amis auditeurs, moi, je vous conseille vraiment d'écouter cet album en entier. Si vous n'avez pas trop l'habitude, ou si vous n'aimez pas trop le métal, ses sonorités un petit peu agressives, essayez de pas trop vous formaliser, et vous verrez, vous allez trouver vraiment des pépites dans chaque titre. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aimeront. Merci pour tous vos partages et pour le bouche à oreille que vous alimentez avec chaleur et enthousiasme autour de ce podcast. Et pour me contacter, comme d'habitude, eric.blanc@lilo.org. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau ou une nouvelle pote et son album. Ciao. Sugar.